bonne femme.
Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Ils sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques? La mienne est morte.
Ménage-toi, Simone.
Ménage-toi, Simone, sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com si vous nous écoutez en podcast. Bonjour et bienvenue pour cette émission de novembre. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis Merlin, dans le réseau depuis sa création il y a 4 ans et l'animateur de cette émission depuis sa création en janvier 2019. Aujourd'hui, pour notre édition d'octobre préenregistrée, je dois commencer par préciser ça, préenregistrée, on a souhaité l'enregistrer samedi 18 novembre, puisqu'en fait, le samedi qui suivra, le samedi de notre diffusion, en fait, au même moment, il y a une action sur Tours à laquelle on voulait participer, nous les membres du réseau de Simone. Donc en fait, on a décidé délibérément de préenregistrer notre émission une semaine auparavant. Je crois qu'on aura l'occasion au cours de l'émission de vous reparler de cette action qui aura lieu du coup samedi prochain, samedi 23. Oui. Et donc voilà, pour cette émission, j'accueille trois camarades autour de la table, dont une personne dont c'est la première fois, elle aura l'occasion de se présenter. Mais d'abord, j'accueille Anaïs. Bonjour Anaïs.
Bonjour. Je suis toujours Anaïs, toujours 28 ans, et je suis toujours une ancienne volontaire en service civique du Bureau Information Jeunesse. Voilà.
Salut Anaïs. Eva, bienvenue.
Bonjour, du coup c'est moi la petite nouvelle. Donc j'ai 23 ans, finalement j'ai cofondé ce réseau aussi, j'ai fait une petite pause dans le militantisme, mais je viens de revenir et je suis ravie d'être là aujourd'hui.
Et on est ravis que tu sois là.
Merci. Merci. C'est trop cool.
Nous accueillons aussi Romane aujourd'hui.
Bonjour, donc moi c'est Romane, 21 ans, je suis maintenant ancienne volontaire en service civique dans le domaine de l'égalité femmes-hommes.
Trop cool. Merci à vous trois d'être là pour cette émission. Donc, on sera quatre et on commence avec, comme à notre habitude, avec des petites actualités qui ont eu lieu au cours du mois dernier concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. On a chacune quelque chose à vous dire concernant ça. Et bien sûr, la dernière actualité qu'on présentera sera l'objet d'une discussion qu'on fera après la première pause musicale. Qui souhaite commencer à nous partager son actualité du mois dernier?
Allez, je me lance. Alors moi, je vais vous parler d'égalité salariale et je voulais juste, au cas où vous auriez loupé l'info, vous dire que depuis le 5 novembre à 16h47, les femmes travaillent gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année. Inégalité salariale oblige. En fait, c'est le hashtag 5 novembre 16h47 qui du coup en fait change tous les ans parce que tous les ans c'est pas la même date. Ça a été initié en 2016 par un mouvement qui s'appelle Les Glorieuses et en fait cette mobilisation elle permet d'attirer l'attention sur les écarts de salaire puisque en France les femmes gagnent en moyenne 15,2% de moins que leurs collègues masculins. Donc l'idée en fait c'est de dire à toutes les femmes de quitter le travail le 5 novembre à 16h47 pour vu que le reste de l'année du coup elles vont venir travailler pour rien puisqu'elles sont de toute façon payées 15% moins cher que leurs collègues masculins. Voilà, et du coup l'autre info c'est que sans la mise en place de politiques publiques, alors c'est ce qu'elles disent, après moi il y a déjà des choses qui sont mises en place donc je serais curieuse de savoir quelle politique publique elle propose. Mais bref, le collectif assure que de toute façon on n'atteindra pas l'égalité avant 2168. Voilà.
Yes.
Ouais. On a vraiment pas le cul sorti.
On a vraiment le temps d'attendre.
Ça veut dire 2168, ouais, on le verra pas. Enfin oui, on sera. À moins que d'ici là, on ait inventé des super trucs pour vivre très 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 vieux. Mais sinon, ça veut dire qu'on verra pas quoi. Voilà, donc comme quoi on pense que même ce truc là c'est réglé ou on va l'être réglé, en fait pas du tout.
Et demande une politique beaucoup plus dure au niveau de la punition envers les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale.
D'accord.
En fait, parce que actuellement il y a déjà des lois qui obligent, ouais, à avoir l'égalité salariale au sein des entreprises, sauf que ça représente, en gros l'amende c'est 1% de ton chiffre d'affaires, sauf qu'au final des grands groupes préfèrent payer l'amende parce que c'est plus rentable que d'embaucher des femmes, okay, et de mettre les salaires à égalité.
Un peu comme les partis politiques aux élections.
Exactement.
Il voilà, y a des quotas imposés, mais...
Exactement.
Moi, cette date-là, la date et l'heure à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année, ça fait plusieurs années que du coup, c'est révélé justement à la fin de l'année tout ça. Moi, j'avais une question, c'est est-ce que ça arrive plus tard sur les quelques années depuis lesquelles on entend parler de cette date et de cette heure à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement?
Je crois que c'est plutôt
la même date.
Alors, il me semble que l'année dernière,
mais
c'était le 6 novembre.
C'est pas la même heure, ok. Ouais. Donc le progrès se calcule en minutes, année après année.
Heure, en heure. Ouais, et okay. Il me semble que l'année dernière, on était à 14 heures. On a arrêté de travailler gratuitement à 14 heures.
D'accord.
Et il y a 2 ans, du coup. Ouais, on était le...
Le 6 novembre.
Le 6 novembre.
Ok.
Donc on a gagné 1h47 d'égalité salariale.
Ouais. Chouette. C'est chouette, hein.
Voilà. On comprend mieux pourquoi ça, selon les prévisions, ça atteindra l'égalité du coup en 2168, ouais.
Il y a également une autre étude qui est sortie, là uniquement aux États-Unis, donc on n'a pas les chiffres en France, mais en gros, ils disaient que pour les femmes racisées, elles avaient arrêté de travailler en juin.
Ok.
Et c'est très intéressant comme étude, vous tapez femmes racisées, égalité salariale, États-Unis, et c'est très intéressant à lire comme étude.
C'est disponible très peinant. Qu'en anglais ou il y a ouais. aussi une version ouais. Non.
Qu'en anglais.
Ok. Mmh.
Ok. Merci Anaïs pour cette première info.
Mais de rien.
Qui souhaite enchaîner ?
Je veux bien enchaîner.
Vas-y.
Actualité assez brûlante, je pense que vous en avez entendu parler. Mais moi, j'aimerais bien parler de notre cher Roman Polanski. son nouveau film qui s'appelle J'accuse, et le titre est assez ironique quand on y pense, réalise quand même le 3e meilleur démarrage de l'année au box-office pour un film français. Alors même que le réalisateur est. Encore, j'insiste sur le encore, accusé de viol. Voilà, donc je trouve que c'est une belle preuve qu'on n'a aucun problème à sponsoriser le film d'un agresseur sexuel. Il y a quand même eu un boycott lancé par plusieurs associations féministes et des personnalités publiques. Dedans, on compte Laurence Rossignol, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est l'ex...
C'est pas une ministre ?
Si, c'est l'ex-ministre aux droits des femmes. Donc voilà, il y a plusieurs personnalités comme ça qui appellent au boycott. Ça n'empêche pas les gens d'aller voir ce film, mais voilà. Donc, ouais, niveau impunité des hommes célèbres, on est pas tout mal, ouais. Sachant qu'il a quand même fait aussi l'objet d'une grosse polémique l'année dernière, il me semble, où il l'avait mis à la présidence de cérémonie des Césars.
Ouais, c'était ça.
Voilà, donc finalement, ça a été annulé, mais quand même, quoi.
Ça a été annulé grâce à la mobilisation des assos féministes.
Voilà, ouais. Donc ouais, il y a juste eu... Les assos ont quand même réussi... Enfin, des militantes ont réussi à empêcher l'avant-première dans un cinéma parisien. Donc quand même une petite victoire, mais voilà, il y a quand même du travail à ce niveau-là et il vit tranquillement quand même. Mmh. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est un... Enfin voilà, c'est un film qui a été... qui parle donc de l'affaire Dreyfus, où il y a de grands acteurs, c'est une énorme production.
Dreyfus,
c'est
un mec qui a été accusé à tort, donc, pendant des années.
Oui, c'est quand même assez ironique que ce soit Roman Polanski qui traite ce sujet.
Ouais.
Je sais pas si...
Je pense qu'il n'y a pas trop de hasard là-dedans.
Ouais. Non.
Il me semble, vous allez me corriger, mais il me semble que c'est justement en voyant... que Roman Polanski allait sortir ce genre de film, c'est ce qui a poussé en fait cette victime-là à sortir du silence et à dénoncer en fait ce qu'elle avait vécu et à rejoindre les autres personnes qui avaient plutôt accusé Roman Polanski de ce qu'il lui avait fait subir. Donc c'est une actrice qui dénonce s'être fait violer à l'âge de 18 ans, il me semble.
Ouais.
Et voilà, en fait, elle a plus pu tenir. En fait, elle est sortie de son silence lorsqu'elle a vu que Roman Polanski sortait un film sur Dreyfus. Sur des affaires policières et judiciaires qui avaient secoué la société française il y a de ça bien des années. Là, ouais. elle s'est dit non, il peut pas s'emparer de ce sujet-là comme ça, de cette façon-là, en s'en sortant bien et en faisant le réalisateur exceptionnel que tout le monde adule, quoi.
Ah bah, comme dit Roman, je pense que c'est loin d'être un hasard, hein. Ouais, il est quand même interdit de séjour dans absolument tous les pays du monde, à part la Pologne, l'Italie et la France, hein.
Ouais.
Je veux dire.
Ça a dû être compliqué pour faire son tournage, du coup, il a dû choisir des lieux de tournage exclusivement en France.
Je vais pas pleurer pour lui, je t'avoue.
Moi, ça m'a vraiment énervé, même localement, parce que du coup, j'ai vu que donc, les studios à Tours diffusent le film. Bon, c'est une chose, mais en fait, dans le descriptif du film, quand on va sur la fiche du site internet, ils mettent qu'il a reçu un accueil compliqué. Le film. Et en fait, moi, quand je lis ça, j'entends que le film, il est mauvais ou qu'il y a une mauvaise réalisation, mais en fait, l'accueil, il est pas compliqué parce que
L'accueil est pas compliqué parce que c'est un mauvais.
L'accueil est compliqué parce que c'est Roman Polanski qui... Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Et du coup, effectivement, la dernière victime, là, qui a parlé, ça a fait ressortir plus. Enfin, il y a pas mal de gens qui ont fait un récapitulatif de toutes les accusations dont il fait l'objet. Et en fait. Enfin oui, vraiment pédocriminel, quoi. Il y a beaucoup de ces victimes qui ont moins de 15 ans, qui ont 10, 12 ans, quoi.
Oui. Voilà. Mmh. Ouais, il y a plein de chroniques qui sortent. Enfin, le grand débat, c'est peut-on séparer l'homme de l'artiste, hein. Bon. Après, moi, j'ai J'ai mes convictions personnelles, mais ouais, c'est le grand débat qui fait fureur, j'ai l'impression, dans l'opinion publique là en ce moment.
Bah, c'est ça, mais ça a toujours été quelque chose d'extrêmement lié, ce bail de l'homme et de l'artiste. Enfin, ouais. Ça a commencé, ça a éclaté quand Bertrand Cantat a assassiné sa femme.
Oui, sauf que lui, du coup, il a assassiné la femme et l'artiste. Hein, là, pour
attends,
le coup.
Tu veux dire qu'il a tué la femme ou l'artiste?
Les deux, justement.
Ah, les deux.
Je crois que vous faites allusion à un très bon tweet.
Ouais, très très bon.
Je reprends excellent. Allègrement un tweet, effectivement. C'est pas de moi. Ça. Mais ça m'avait beaucoup fait rire. Enfin, fait assez rire.
Oui, justement.
Bah, c'était très parlant. Moi, j'en avais vu un qui disait est-ce que si ton frère viole quelqu'un, tu vas lui dire non, mais attendez, il fait du très bon pain? Pas du tout, tu ne vas jamais dire ça. Donc, je ne dis pas la même chose d'un réalisateur. Certes, peut faire de très bons films, mais quand même une pourriture.
Voilà, ça permet, je pense, cet argument, et celui qui assoit, qui permet justement de pas de plus.
Il est assez efficace, ouais.
Assez efficace, ouais. Ok, merci Eva pour cette info-là. Romain, je t'envoie la parole.
Alors,
sur
moi,
ton actualité.
J'aimerais vous parler, donc, c'est quelque chose qui s'est étalé tout le mois d'octobre et de novembre. Je voulais vous parler des nombreuses arrestations des colleuses. Partait des collectifs collage féminicide avec le petit underscore et le nom de la ville. Donc c'est un collectif national, vu qu'il y en a dans quasiment toutes les villes de France, même dans les toutes petites villes. Et ça, c'est trop chouette parce que c'est un mouvement qui est national et c'est trop beau de voir ça en place. À Tours, on en a un. Et on s'est fait... Mais parce que j'en fais partie, du coup. Même si c'est illégal. Je vais coller avec moi. Mais en fait, il y a eu une action nationale. Et l'action consistait à aller coller sur le palais de justice une banderole qui disait « Féminicide, État coupable, justice complice » parce qu'on considère que l'État est coupable de ne rien faire au niveau de sa politique, etc. On rappelle que l'égalité femmes-hommes, c'est la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà, on est à 136 féminicides, je tiens à le rappeler. Et justice complice parce que la justice est complice de ne pas agir assez vite et de condamner les personnes qui vont preuve de violence envers leur conjointe à des peines qui sont parfois ridicules.
Excuse-moi, est-ce que tu peux tenir ton micro juste un tout petit peu plus droit?
Oui, comme ça.
Oui, très bien.
Parfait, excuse-moi. Est-ce qu'il y a besoin de répéter ou ça va le faire?
Non, ça va aller.
En allant coller, donc nous avons été collé une banderole parce que malheureusement sur le palais de justice de Tours il y a des travaux et du coup on peut pas coller dessus et c'est trop dommage, mais c'est pas grave. Du coup, on a fait une banderole et les policiers ont mis très exactement une minute à débarquer.
Ils sont rapides, c'est marrant. S'ils pouvaient être rapides pour d'autres
aussi
trucs,
rapide, hein.
C'est exactement ce qu'on leur a dit. Et c'est fou quand même, vous êtes super rapides pour ça et tout. Nous n'avons pas eu d'amende parce qu'il s'agissait d'une banderole que nous n'avons pas pu accrocher. Nous n'avons pas eu le temps de l'accrocher du coup. Mais par contre, à Aix-en-Provence, à Paris et à Lyon, il y a eu des arrestations, il y a eu des gardes à vous qui ont duré de 3h du matin à 6h du matin. Voilà. Il y a eu des amendes, évidemment. Et il y a également eu un policier qui a osé dire à une des colleuses que si on faisait pas toutes nos conneries, ils auraient suffisamment de temps d'aller s'occuper des maris qui battaient leurs femmes. Voilà. Donc, mauvaise foi, bonjour. Donc voilà, donc je voulais juste parler de ce mouvement qui est extrêmement beau et très sororitaire, même si je ne sais pas si ce mot existe. Mais en tout cas, c'est...
On va l'inventer,
c'est
pas grave.
Ok, sororitaire, allez.
On l'accepte.
Voilà.
Sororitaire.
Mais en tout cas, ce mouvement est inclusif et bienveillant et n'hésitez pas à envoyer un message sur la page Collège Féminicide Tours si jamais vous souhaitez vous joindre aux actions. Voilà.
Ces collages, je pense qu'on en a tous un petit peu aperçu de quoi il s'agissait. En fait, c'est des feuilles format A4 ou A3, mais chaque feuille comporte une lettre. Et les lettres sont posées les unes à côté des autres pour former des mots, pour former des phrases sur les murs.
C'est ça, c'est des slogans qui sont coups de poing.
Ouais.
Parfois extrêmement violents, on va pas se mentir, mais au moins ça interpelle les gens. Donc il y a... voilà, il y a celui qui marque beaucoup les gens, c'est dans tant de féminicides, c'est Noël, parce qu'en fait, ça permet réellement de se rendre compte que dans tant de féminicides, donc à la fin de l'année, il y aura tant de féminicides. Donc le cœur bat pas les poings aussi, il marque beaucoup. Ou papa, il a tué maman, parce que c'est une réalité. Parce que les féminicides, ça laisse aussi des orphelins.
Ceci dit, on peut se dire que les slogans, c'est violent, mais je veux dire, un slogan sur un an n'a jamais tué personne, en fait.
C'est ça, c'est
donc,
à l'échelle
relative, quoi.
À l'échelle de la violence,
ouais,
je trouve que ça va. Mais pour en revenir à l'actualité précédente, c'est comme les gens qui disent que c'est extrêmement violent d'empêcher les gens d'aller voir un film, mais est-ce que c'est pas extrêmement violent, le viol d'une enfant, enfin, genre, mais en, mais en parallèle
en, ouais, une perspective, ouais.
Voilà.
Ça marche. Merci Romane pour cette actu. Moi, je vais présenter la dernière actu, celle qu'on a, celle qui nous a donné du coup le thème pour la discussion à venir après notre première pause musicale. On a choisi comme thème, bah, je vous le révèle avant la, avant le début de la discussion, on a choisi comme thème l'éducation sexuelle. Et ce qui nous a fait penser à, ce qui nous a décidé à traiter ce sujet, c'est une actualité justement, ce qui s'est passé à Toulouse, dans un collège. En fait, il y a trois collégiens qui sont mis en examen puisque ils ont violé une collégienne dans les toilettes de leur collège en fait. Et voilà, c'est quelque chose qui a eu lieu récemment, qui a eu lieu le 29 octobre. Et en fait, voilà, donc forcément, ça, ça fait grand bruit, ça fait scandale, et c'est normal de prendre ça à bras le corps, puisque c'est assez grave ce qui s'est passé. Et donc, dans l'enquête, dans les premières pistes de l'enquête et les premières infos qui nous sont parvenues, en fait, ce qui est mis en cause, en grande cause, c'est le porno, la pornographie, les sites porno, l'accès au porno sur internet et par, par les jeunes en fait, par les très jeunes. Pardon. Et voilà, donc c'est la plupart des articles ont basé voilà, les débuts de l'enquête là-dessus. Nous on s'est demandé si c'était pas un peu plus largement, bah je sais pas, des choses comme le patriarcat peut-être.
Au hasard,
mais par exemple. Quel est que tu...
Voilà, et d'une manière générale, en fait, l'accès au porno, certes, et aussi l'éducation sexuelle, d'autre part, qui est à notre sens et à notre avis insuffisante, pas suffisamment correctement faite et suffisamment déployée, vulgarisée, etc. Et donc, on a, voilà, on a préparé des arguments, on a potassé là-dessus sur ce sujet à partir de cette nouvelle glaçante. De trois collégiens dans un collège à Toulouse qui ont violé dans les toilettes du collège une de leurs camarades. Voilà, on va passer une musique après l'annonce de cette nouvelle pas super réjouissante. En rapport, cette première pause musicale est en rapport avec, avec la discussion qu'on a choisi d'avoir. On va vous passer un titre de Mara,
oui,
qui s'appelle Foufoune.
Allez,
c'est parti.
Foufoune, foufoune, foufoune dans ta bouche, foufoune dans ta bouche, foufoune dans ta bouche, foufoune dans ta bouche, foufoune. Parle trop. Foufoune dans ta bouche. Sous le bureau. Foufoune dans ta bouche. T'es accro. Foufoune dans ta bouche. Tu fais tarot. Foufoune dans ta bouche. Moi je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne. Je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne. Toi t'es en défensive et t'as le seum. Ah ouh. Wow, une pointe de coquille. Foufoune dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune. Foufoune. Chat, 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 miaou. Chat, 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 chat. Chat, miaou. Faisons sur tous les rentés, on fait pas que de la trappe, tap. Ambiancé, on aime quand le boutique clap, clap. Nous arrêter, mais c'est qui toi, on se tape, tape. Je... Coquille. Foufoune, dans ta bouche. Foufoune, dans ta bouche. Foufoune, dans ta bouche. Foufoune, dans ta bouche. Foufoune. Chat, 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 miaou. Chat, 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 miaou. Faisons sur tous les rentés, on fait pas que de la trappe, tap. Ambiancé, on aime quand le boutique clap, clap. Nous arrêter, mais c'est qui toi, on se tape, tape. Ah ouais, est-ce qu'il y en a qui veut se frappe, frappe. Ça fait comme Booba et Caris. Sur le ring, coup de boule et cicatrice. Ring, ring, voilà la police. Stop, wine, pon du coquin. Foufoune dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune,
c'était Foufoune de Mara sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com si vous nous écoutez en podcast. Et c'était au sein de l'émission Ménage-toi Simone. Une musique plutôt sympa pour introduire justement la discussion qu'on a choisie autour de l'éducation sexuelle. Donc en effet, on en parlait pendant la pause musicale, peut-être faire un trigger warning, comme ça s'appelle.
Yes.
On va parler de cul, on va parler de sexe, on va parler de tout ça, évidemment. Donc, trigger warning... Anaïs, tu sais un petit peu mieux en quoi ça consiste ?
Oui, juste un trigger warning, en fait, c'est de prévenir les gens qui écoutent, qui lisent quelque chose, que potentiellement ce qu'ils peuvent entendre après peuvent les choquer ou leur rappeler un souvenir désagréable. En soi, en fait, tout peut être...
Tout peut être trigger warning.
Mais du coup, voilà, on fait souvent un trigger warning quand on parle de viol, quand on parle de violence conjugale ou quand on parle de genre de choses, quand on parle de drogue aussi, par exemple, quand on parle de troubles du comportement alimentaire. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent déclencher des mauvais souvenirs. Mais du coup, là, voilà, comme on va parler de cul et de sexe, effectivement, ça peut être bien. Donc, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça, et ben revenez dans 20 minutes. Normalement, ça devrait être fini.
On sera passé à autre chose.
On sera passé à autre chose.
Exactement. Voilà, les bases sont posées. Et donc voilà, on peut y aller gaiement désormais. Donc, l'éducation sexuelle, en quoi ça consiste ? Pourquoi en faire ? Qu'est-ce que aujourd'hui est nécessaire de faire en éducation sexuelle ? Qu'est-ce qui existe déjà ? Qu'est-ce qu'on aimerait voir apparaître ? Voilà, toutes ces questions qu'on pourra soulever au cours des 20 prochaines minutes. Et donc bien sûr, on a chacune préparé des petites choses à dire concernant ça. Qui souhaite un petit peu justement parler de ce que c'est actuellement l'éducation sexuelle ? Pourquoi pas dans le système éducatif
français ?
Ouais.
Yes.
Ben, qui veut lire la définition du Larousse ?
Ah non, moi j'ai pas la définition du Larousse. Tu l'as ?
Ah, ouais, moi je l'ai. Ouais, c'est.
Alors. Donc, éducation sexuelle. Ensemble des informations théoriques visant la compréhension et l'épanouissement de la sexualité. Créée en 1973 par l'Éducation nationale, elle est destinée à assurer aux élèves une information sur la procréation en des termes adaptés à leur âge. Et je trouve que déjà dans la définition, il y a un problème.
Alors,
pourquoi ?
Je suis Vas-y. Surprise parce que ça commence par épanouissement quand même.
Bah pour moi, c'est la définition actuelle. C'est le Larousse, hein, c'est pas la définition du... De l'éducation nationale.
Oui, c'est vrai aussi. Je n'ai pas la définition de l'éducation nationale.
Oui, je suis assez d'accord que dès la définition, il y a un petit souci. Notamment, par exemple, là, quand on dit « destiné à assurer aux élèves une information sur la procréation.
My God.
Donc, voilà. Spoiler alert. Alors,
donc le sexe...
Il n'y a pas tout le monde qui veut des enfants sur cette planète.
Oui, et puis le sexe...
Le sexe, c'est pas fait que pour la procréation.
Exactement.
Également.
Alors, je sais pas si on peut enchaîner sur où on en est aujourd'hui.
Oui, ouais, carrément.
Les lois, etc.
Ou est-ce qu'on fait le tour de table ? Je sais pas. Par quoi ?
Ah oui.
Parce que du coup, moi, en préparant l'émission hier, je crois bien, je me suis dit que ce serait cool juste qu'on dise chacun et chacune nos souvenirs de l'éducation sexuelle qu'on a pu avoir en cours.
On peut, ouais.
Du coup, moi, je peux commencer si vous voulez. Moi, je me rappelle même pas du fameux truc de la capote sur la banane, donc je ne sais pas si je l'ai eu ou pas. Mais je me rappelle plutôt de trucs sur le corps des meufs, la procréation, tout ça. Mais je crois même pas avoir eu vraiment de cours d'éducation sexuelle. Et ou alors c'était vraiment intégré genre en cours de SVT sur la procréation. Je pense que c'est ça. Et j'en parlais aussi tout à l'heure hors antenne sur le fait d'avoir une infirmière ou un infirmier dans l'établissement scolaire. Parce que je pense que ça peut être important aussi pour les élèves qui auraient besoin de parler de ces sujets-là. Et que moi, en l'occurrence, genre au lycée, elle était là 2 jours peut-être par semaine, quoi. Donc, fallait vraiment être malade le bonjour ou ne pas avoir besoin d'elle, quoi. Voilà pour ma part.
Moi j'enchaîne, du coup je suis à côté de toi Anaïs. Je me rappelle vachement plus, quand on parle d'éducation sexuelle, je me rappelle vachement plus de ce que m'ont appris mes parents que de ce qu'a pu m'apprendre le collège ou mes professeurs, tout ça, puisque bah, y a vraiment eu des épisodes où mes parents ils ont pris les choses en main et ils nous ont dit, mon grand frère et moi, on a que 2 ans de différence, ils nous ont dit, bah, venez, on a un truc à vous dire, des trucs à vous montrer, tout ça, machin, et ça s'est fait, enfin, ça a été un petit peu solennel, parce que je pense que pour n'importe quel parent, bah, c'est encore un peu compliqué à aborder. J'aimerais qu'à l'avenir, ça devienne de moins en moins compliqué, que ce soit un petit peu moins tabou, mais voilà, ils ont vraiment pris les choses en main, fait les choses correctement, ils ont pensé toutes les choses qu'ils avaient à nous dire et ils nous les ont montrées. Et mais voilà, pour ce qui était de ce que m'a apporté l'école, en effet, il y a eu, je me rappelle, 2 séances au collège qui étaient faites par une prof d'SVT, un prof de physique. La prof d'SVT, bah, parce qu'elle avait les connaissances, biologiques, on va dire, et puis le prof de physique, parce que bah, juste c'était une grande gueule et ça lui dérangeait pas de parler de sexe. et voilà, et donc voilà, je crois qu'ils faisaient les interventions, comme ils étaient que 2 à être motivés pour faire ça, ils faisaient les interventions, les séances à plusieurs classes en même temps.
Oh,
donc on était très nombreux à aller voir sur une estrade, à nous montrer justement le préservatif, etc. Et voilà, et ça a été 2 séances, donc forcément au cours de 2 séances, on a pu parler de protection, on a pu parler de maladies sexuellement transmissibles, d'infections sexuellement transmissibles, etc., de procréation, bien sûr, de contraception. Moi, je ne me rappelle pas qu'on ait parlé ce jour-là de consentement ou de plaisir sexuel ou de différentes pratiques qui peuvent exister en fonction de kiff et le sexe en même temps, quoi.
Ok.
Moi, j'ai eu, je me rappelle très bien, j'ai eu 1 heure en 3e, ce qui est quand même tard. Voilà. Et je me rappelle, en fait, j'avais rien appris parce que, en fait, ma mère avait déjà pris les choses un peu comme toi, Merlin, à bras le corps en se disant, bon, le collège n'en parle pas, je vais lui expliquer un petit peu ce qui se passe. Et par contre, du coup, elle m'a beaucoup parlé de consentement, de plaisir, que ça devait être un moment à deux. Voilà, que si je ne voulais pas, bah, j'avais le droit de dire non et je devais dire non pour me protéger. Donc, bah, merci maman. En revanche, une heure, on a parlé de capote. J'ai pas eu droit à la démonstration sur la banane. On a parlé de maladie. On a beaucoup parlé de maladie. En fait, j'ai un souvenir vraiment très sombre de cette heure-ci parce que c'était très...
Je vais mourir.
Très diabolisant, mettez une capote, sinon vous allez mourir. Donc, vraiment, c'était beaucoup là-dedans.
Ça a donné envie de faire du sexe après, ça.
Après, t'es en mode... cool. Et les 20 dernières minutes, c'était... en gros, l'infirmière nous avait dit... oui, parce que ça a été fait par l'infirmière du collège, qui avait un certain âge, on va pas se mentir. Donc peut-être que c'était lié à ça, enfin bref, je ne sais pas. Mais en gros, qui nous avait fait mettre des petits papiers dans un chapeau. Et en gros, si on avait des questions anonymes et tout. Donc dans l'idée, c'est une très bonne idée pour les élèves qui n'osent pas prendre la parole. Sauf qu'au final, ça s'était terminé en des personnes qui avaient mis des questions complètement cons. Des questions complètement cons. Enfin, et puis sur des termes, c'était sur des termes porno. Genre qu'ils savaient extrêmement bien ce que c'était. Sauf que du coup...
Plus pour mettre mal à l'aise la prof qu'autre
Exactement.
Chose peut-être.
Enfin, je me rappelle, c'est quoi une golden shower, c'est quoi.
Il s'était déjà bien renseigné.
Ok. Mais du coup, en plus, l'infirmière hyper gênée d'expliquer ça. Enfin bon, c'était pas un bon souvenir cette heure d'éducation sexuelle.
Voilà. Du coup, je me permets de compléter parce que c'est vrai que moi, j'ai parlé que de l'école, mais pas de mes parents. Mes parents m'ont jamais vraiment parlé de ça, mais mes parents m'ont acheté le guide d'usage sexuel de Zep et Hélène Brûlé.
Oui, je l'ai aussi.
Et en fait, depuis, je l'ai donné, je pense, ce livre. Et en fait, je regrette de l'avoir donné parce qu'il était vraiment cool. Voilà. Il est vraiment bien foutu, ce bouquin.
C'est bien que tu l'aies donné.
Je l'ai donné parce que, voilà, dans l'idée de... transmission de la connaissance.
Je pense que tu peux le retrouver facilement broché ou sur internet.
Ouais, je pense. Mais du coup, voilà, c'était juste pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure.
Juste un tout petit truc. On n'a pas du tout parlé des différentes formes de sexualité.
Enfin, d'accord.
On n'a pas parlé de personnes LGBTI+. Voilà.
Pour compléter ce tour de table, je me souviens d'une séance. Une seule, et j'étais déjà au lycée, en classe de seconde. Et pour le coup, c'était le planning familial 37 qui était venu, donc c'était pas trop mal. Après, ça avait pas duré longtemps, je crois qu'on avait eu 2 heures. Alors, il faut savoir aussi, pour replacer le contexte, j'étais dans une classe où on était que des meufs. Je crois qu'il y avait trois mecs, un truc comme ça. Je me souviens qu'on a bien rigolé pendant cette séance-là. Le planning, après, ils ont une approche aussi quand même très inclusive, très... voilà, ils parlent... l'objectif quand même, c'est aussi de parler de consentement, de plaisir, etc. Donc j'en garde un bon souvenir. Bon, après, ouais, au collège, j'ai sûrement dû avoir des petits cours de SVT sur comment fait-on les enfants, la petite graine que papa plante dans ma main, blablabla, quoi, ce genre de choses.
Oui, c'est ça.
Mais pas plus. Après, je pense que je me la suis faite toute seule et je me la suis surtout faite grâce à mon groupe de pères, à mon avis. Mmh. Mon groupe de potes. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires sexuels aussi plutôt cool. Donc voilà. Mais je pense que, ouais, non, l'école m'a pas grandement aidé, quoi. Voilà.
Ouais. Ouais. Alors que. Je vais faire une transition vers
ouais.
un ski.
Très bonne transition.
Ouais.
Bah, je sais pas, j'enchaîne si vous voulez.
Vas-y, t'as les infos.
Ouais. Bah, alors que il y a quand même des lois qui sont en vigueur sur l'éducation sexuelle à l'école. Et en théorie, depuis 2001, la loi stipule qu'à chaque cycle scolaire, les élèves doivent avoir trois interventions d'éducation à la sexualité. Enfin, à la vie affective et sexuelle. Donc, autant vous dire que c'est pas appliqué correctement. En même temps, il n'y a pas d'instance qui contrôle. Enfin, il n'y a pas de... Il y a une obligation de le faire, mais en même temps, personne ne va rien vous faire ni vous dire si vous ne le faites pas. Donc, c'est forcément... pareil, c'est n'importe qui peut le faire, en fait. Il suffit juste d'être en binôme. Donc, ça veut dire que, je sais pas, moi, j'ai eu des discussions comme ça. À l'époque, je faisais des interventions pour la Ligue de l'Enseignement, là, en service civique. Y en avait qui nous disaient, nous, on a eu des interventions d'éducation sexuelle faites par les flics.
Wow.
Genre la gendarme. Oui, non, mais. Et ça m'avait fait vraiment halluciner, quoi.
Ah, voilà.
Ça m'avait fait... Alors, je pense que c'est assez rare, mais ça m'avait fait complètement halluciner, quoi. Donc voilà, ce genre de choses. Et ouais, il y a le Haut Conseil à l'égalité, femmes-hommes, mm-hmm. qui a sorti une petite enquête et on voit bien que c'est pas respecté. Je crois qu'il y a, enfin je suis même sûre, il y a 11% des lycées qui ont jamais appliqué cette loi, par exemple. Au lycée, on a entre 15 et 18 ans. C'est à
tard.
Peu près pile poil le moment où...
C'est tard déjà, moi, je trouve.
Ouais, c'est déjà très tard, mais c'est à peu près quand même pile poil le moment où on découvre à peu près plein de trucs.
Ouais.
Et en fait, il y a 11% clair, des lycées qui...
Mais j'en ai pas eu, en fait. Je tilte, mais c'est,
bah,
ce...
Voilà,
vrai, c'est ce que
tu fais partie des 11%, Romane.
C'est ce que je disais hors antenne, mais c'est ouais. vrai qu'en fait, en S, et la
grave,
prof
hein.
considérait qu'en fait, vu qu'on était en S spécialité SVT, bah, on savait comment fonctionnait le corps humain, donc il y avait enfin, genre bac de médecine ou je sais pas quoi, hein, mais,
oui.
mais elle considérait qu'on savait comment fonctionnait le corps, qu'on nous l'avait déjà expliqué, donc c'était pas la peine de faire l'éducation à la vie sexuelle et affective.
Bah, le truc, c'est ça, en fait, c'est que j'ai l'impression que l'objectif actuellement qu'on pose à l'éducation sexuelle, c'est que les élèves soient calés sur tout ce qui est IST, MST, et soient calés sur la contraception, etc.
Mmh.
Alors qu'en fait, que pour moi, l'éducation sexuelle, en gros, tous les élèves devraient sortir de l'école ou du système éducatif avec le filtre sexualité libre, épanouie et consentie, qui fait que du coup, le porno ne serait plus un problème, parce que le porno, il est problématique quand tu le regardes sans ce filtre-là,
mm-hmm.
et en pensant que c'est ça le sexe.
Bien
alors
vrai.
Que, spoiler alert, ce n'est
non.
pas ça. Enfin, ça peut, si vraiment c'est votre dada, mais c'est, la plupart du temps, ça ressemble pas à ça, quoi.
Mm. Mm. Ouais, puis c'est ça, comment tu peux prendre du recul sur le porno actuel d'aujourd'hui quand t'as pas... Enfin, quand tu sais pas ce que c'est que le consentement, quand tu reproduis des schémas complètement oppressifs.
Mm.
Et c'est quand même très problématique. Je crois que c'est Virginie Despentes qui en parle très bien et qui dit que en fait c'est pas le porno le problème, c'est la manière dont il est fait et puis aussi la manière dont nous on est éduqués... à la sexualité, en fait.
Ouais. Mmh.
Et puis c'est d'hyper mauvaise foi d'accuser le porno alors que
oui.
tu ne fais rien à côté pour,
exactement.
C'est clair.
Pour éduquer
c'est
la notion de consentement et de respect, bah, mmh. respect des femmes, en fait. Enfin,
parce qu'il faut peut-être justement se poser la question
dédouaner, je pense.
De pourquoi est-ce que les jeunes vont voir du porno pour...
Mais oui, c'est ça.
Vont pour faire leur éducation sexuelle, quoi. Puis du coup, je trouve aussi que l'éducation sexuelle, tu vois, genre par rapport au, enfin, vous voyez, par rapport au mythe de l'hymen, par exemple. Enfin, en gros, on t'explique presque tu vas ta première fois, quand t'es une meuf et que ta première fois avec une pénétration vaginale. tu vas te déchirer, que ça va être la mer rouge et que ça tu vas hurler mal, de douleur et tout. Alors qu'en fait, il y a des meufs qui perdent leur hymen d'une autre façon. Enfin, il y a plein d'hymen différents. Il y a des meufs qui n'en ont pas. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs, plein de choses différentes. Et même plus largement, sur la virginité, en fait. La virginité, c'est quoi? Est-ce que c'est uniquement une pénétration vaginale? Je veux dire, une personne vierge, a priori, c'est une personne qui n'a jamais eu de rapport, de relation sexuelle. Donc, c'est plus large qu'une histoire de pénétration pénis-vagin. Sinon, toutes les lesbiennes seraient vierges. Enfin, tu vois. Ouais, moi, ça me pose plein de questions. Enfin, je me dis qu'on a vraiment qu'une vision très étriquée de tout ça. Enfin, en tout cas, on montre une vision très étriquée de tout ça.
Ouais, une vision vachement diabolisée, en fait. Des relations sexuelles, en fait. Enfin, ouais. Genre, pour la première fois. Moi, je parle de moi et de mon vécu et de mon ressenti. Hein. J'ai pas du tout eu mal pour ma première fois. Ça s'est super bien passé et j'ai pas eu mal et tout s'est bien. Et je n'ai pas saigné ou quoi que ce soit.
Tu t'es pas vidé de ton sang sur le
panneau. Non.
Yes.
Mais non, mais en fait, c'est aussi ça. C'est que ça peut aussi très bien se passer. Bien sûr qu'il y a des cas où ça peut mal se passer. Et je suis persuadée que plus on dit que ça va mal se passer, plus tu te persuades que ça va mal se passer. Donc pour moi c'est un cercle hyper vicieux le coup de dire tu vas avoir mal pour ta première fois.
Surtout que pour moi ça normalise le fait d'avoir mal pendant un rapport sexuel. Aussi. Du coup on en arrive à un autre transition de ouf. C'est qu'en fait vu le peu d'infos qu'on a à disposition, on peut vite flipper des différences. Enfin, différents ou différentes. Justement, voilà, sur le fait de normaliser le fait que avoir mal pendant un rapport sexuel, c'est normal. Donc non, ce n'est pas normal. Sauf
c'est
si du coup,
normal.
C'était l'idée de base et que vous avez envie d'avoir mal, ça peut arriver, mais
si c'est consenti, tout
si
voilà.
C'est consenti si c'est, dans si c'est la consenti, communication, voilà. Et le respect.
Mais a priori, non. Et du coup, par exemple, les meufs qui souffrent de vaginisme, il y en a plein qui ont eu ça pendant des années sans se dire qu'elles pouvaient aller consulter et que ça pouvait aller mieux, en fait. Il y a ça et il y a aussi.
Je t'arrête. Le vaginisme, c'est un truc que j'ai découvert lorsque j'ai lu tes notes en préparant l'émission. Le vaginisme, c'est quoi? Ça atteint qui? C'est...
Alors, tu me poses une colle parce que du coup, j'ai sorti le terme sans faire une grosse recherche très poussée.
Le vaginisme, grosso modo, c'est le fait de, quand on est pénétré, soit avec un doigt, soit avec un sexe ou n'importe quoi, en fait, ça ne rentre pas, en fait. Et ça fait très très mal. C'est une espèce de
contraction involontaire du périnée. En fait, voilà. Ça contracte les muscles du vagin, ce qui fait qu'en fait, ça provoque, vu que ton muscle est tendu et que tu forces, ça fait mal.
Ça fait extrêmement mal, ouais.
Vu qu'en plus, c'est un endroit qui est extrêmement sensible et rempli de nerfs et aussi un endroit qui est très intime pour le coup, ça fait mal physiquement et ça fait mal psychologiquement aussi. Il y a aussi ça.
Ça peut être. Alors, tu demandais qui est touché par le vaginisme? Plein de personnes dotées d'un vagin, mais ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû à des traumas, donc tout ce qui est agression sexuelle. Ça peut être dû à de l'endométriose. Ça peut être dû à n'importe quel blocage, ton corps qui somatise, n'importe quel blocage psychologique. Ça peut être dû à plein de choses, en fait.
En fait, tu peux avoir du vaginisme à un moment où t'es dans une période pas bien de ta vie, etc. En fait, ça va se ressentir comme ça. Tu vas te contracter et également à cet endroit-là.
Forcer, ça ne sait, enfin, ce, oui, voilà, ça, ne ça met pas. Pas.
Non, ne forcez
vous
pas.
Pas mal pendant les rapports sexuels, sauf si c'est consenti, etc. Mais ça, vous l'avez compris. Mais ne vous faites pas mal.
Ok. Merci pour cette parenthèse, Anaïs. J'espère que t'as pas perdu le fil.
Non, pas du tout, parce que du coup, le deuxième truc, c'était donc, c'est vrai qu'on parle pas du coup des LGBTI plus. LGBTQIA+. Le A, c'est pour asexuel.
Oui.
Voilà, justement, je voulais parler de ça, parce que du coup, les asexuels, à ne pas confondre avec les abstinents volontaires qui le sont pour des raisons personnelles ou par choix, les asexuels, ce sont des personnes qui n'ont pas de désir sexuel pour d'autres personnes. Et ça, on n'en parle pas du tout non plus. Alors que ce serait bien d'en parler, en fait, que les gens se disent pas qu'ils sont fous, qu'ils ont un problème ou qu'ils sont anormaux, ouais. À ne pas confondre non plus avec les gens qui sont aromantiques et qui du coup eux n'ont pas de sentiments, qui peuvent avoir des relations sexuelles amoureux. Mais n'ont pas de sentiments amoureux. En fait, il y a tellement de choses différentes, tellement d'orientations différentes. Ce serait bien que tout le monde parte dans la vie avec les mêmes infos, quoi, qu'on soit pas paumé.
Et de se dire que la sexualité c'est un spectre et que chacun est différent, même quand on est Par exemple, bisexuel, on peut être des fois plus attiré par les personnes à pénis, des fois plus attiré par les personnes à vulve, etc. La sexualité, c'est un spectre et chacun doit pouvoir trouver sa place dans ce spectre.
C'est ça. Et je pense que... Je pense que c'est vraiment ce qui manque justement à l'éducation sexuelle qui est actuellement apportée par l'école aux enfants du moins en France. C'est que voilà, l'idée c'est pas qu'on leur parle de toutes les pratiques, de toutes les façons de faire du sexe, de toutes les combinaisons possibles de partenaires. L'idée c'est que on arrive à inculquer et à transmettre cette conception de ce que c'est le sexe et la pratique sexuelle. C'est que voilà, c'est un spectre. L'idée, c'est de trouver sa place. C'est pas normé, même s'il y a une grande proportion de couples hétérosexuels, ça doit pas être la norme. Mais en fait, toutes les pratiques qui sont librement consenties par tous les partenaires en même temps, elles devraient être acceptées. Et le tout, c'est de s'y trouver, quoi. C'est vraiment, je pense, cette idée qui manque à l'éducation sexuelle actuellement, qui une fois qu'on a ça, en fait, on peut commencer une vie adulte et une vie de personne qui fait du sexe épanouie. Ou qui fait pas du sexe, épanouie et émancipatrice.
C'est ça. Mais il y a plutôt un très bon article de Slate qui, le titre, je le trouve assez parlant, c'est « Éduquons nos enfants à l'hétérosexualité ou à la sexualité ?» Spoiler alert, à l'hétérosexualité. Et c'est ça en fait, on perpétue des espèces de schémas dominants-dominés, des schémas oppressifs, on parle de biologie, de risque, et ouais... Non, c'est pas très sain quand même.
On apprend le principe du pénis dans le vagin alors que ça peut être autre chose. Et en plus, c'est hyper dangereux parce que du coup, si on est une personne homosexuelle, pour les personnes gays, du coup, il y a de l'éducation vu qu'on peut utiliser un préservatif. Mais en revanche, dans un couple lesbien, il n'y a pas du tout d'éducation au fait que oui, même si tu es en couple lesbien, tu peux quand même attraper des MST. Des IST, pardon.
On dit des IST maintenant, mais...
On a compris le même, je
crois. Maladie, quoi.
Mais ouais, c'est clair, on n'en parle jamais. Et du coup, ça fait que les élèves LGBT se sentent complètement... soit anormaux, soit oubliés, soit complètement transparents, invisibilisés, tout ce que tu veux. D'ailleurs, peut-être qu'on peut enchaîner sur le témoignage...
Carrément.
...que j'ai récolté...
Oui, l'année dernière, lors de l'émission précédente, c'était Ophélie qui était revenue avec un enregistrement audio d'une conférence qu'avait donnée une députée concernant la formation des policiers à recevoir des plaintes de personnes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, Eva est arrivée donc avec un témoignage, le témoignage d'une personne lesbienne, qui va nous parler justement de la découverte de sa sexualité et aussi de l'éducation sexuelle qu'elle a eue par rapport à sa sexualité. C'est parti.
Alors, comment j'ai vécu mon éducation sexuelle à l'école? J'ai quasiment pas de souvenirs, sincèrement. J'en ai au collège, j'en ai un, le truc de comment mettre une capote sur une banane, c'est tout. Moi, à cette époque-là, au collège, j'étais pas du tout out, je le savais pas vraiment encore, enfin... Donc, moi, j'ai pris un peu le truc en mode genre, haha, trop drôle. Enfin, comme on le prend quand on est gamin, en fait. C'est plus au lycée où là, j'ai commencé à comprendre que j'étais pas attirée que par des garçons. Mais je pense que, petite parenthèse, si j'avais eu des modèles, des exemples, des séries, enfin des livres, des films qui présentaient plus de couples, de personnes LGBT, sûrement que j'aurais compris plus tôt. C'est au lycée que j'ai commencé à me faire ma propre éducation sexuelle parce que je n'ai aucun souvenir de prof, d'intervention, de quoi que ce soit qui m'ait parlé de l'homosexualité. Ah si, on avait fait, je crois que c'était de l'éducation civique, je sais plus comment ça s'appelle, un truc justement, un débat sur l'homosexualité. Mais c'est très différent de... Enfin, là, on était sur le concept d'orientation sexuelle, pas de sexualité. Donc voilà... Moi, ma propre éducation sexuelle, je me la suis faite avec The L Word. voilà, il y avait globalement que ça à l'époque, The L Word et 2-3 séries comme ça, c'est tout. Et évidemment, du coup, je pense que j'étais obligée de rester dans des carcans très hétéronormés.
Voilà.
Donc le témoignage de Sophie, pour le coup, je le trouve assez parlant quand même. Il montre bien qu'on ne parle pas du tout des élèves LGBT+, en cours d'éducation à la sexualité. J'ai une petite citation, si vous voulez, pour étoffer le propos. J'ai bien fait mon travail. C'est une citation de Gabrielle Richard, qui est chercheuse en études de genre à l'Université Paris-Créteil, et qui dit, sur l'éducation à la sexualité... Alors, attendez, je me suis perdue dans mes notes. Ah, voilà. En évitant de parler d'orientation non hétérosexuelle, de configuration familiale homoparentale ou d'identité trans, l'école transmet un message sans équivoque sur ces questions. Deux points, elle n'existe pas. Je trouve que c'est assez illustratif de ce qui se passe.
C'est trop ça. C'est, si voilà. Tu n'en parles pas, ça n'existe pas.
Exactement. Et puis, pour moi, justement, l'éducation à la sexualité, c'est pas que parler de comment se protéger... Ou c'est aussi permettre à tout le monde de pouvoir se sentir représenté, en fait. Exactement ce que tu disais, Anaïs, plus tôt. Et voilà, parler d'orientation sexuelle, c'est aussi important, à mon sens, et d'identité de genre, par exemple, c'est aussi important, à mon sens, d'en parler que de parler de capote interne, externe, etc. Quoi.
Oui. Et puis, c'est aussi... Alors, je vais peut-être faire ma meuf un petit peu fleur bleue et tout, mais c'est aussi parler d'amour. Enfin, je sais pas, mais c'est aussi montrer des modèles de couple qui existent et de montrer un couple qui est épanoui et qui est dans la communication, dans l'écoute, dans l'empathie, etc. Enfin, pour moi, on apprend. Pour moi, on n'apprend pas la communication en fait avec l'autre, et pour moi, c'est trop important parce que si, quand bien même tu es dans un couple à deux ou un couple. Il y a aussi les modèles de couple aussi qui ne sont pas montrés, les couples exclusifs, les couples libres, les couples libertins, le polyamour, etc. On n'en parle pas non plus. Et pour moi, il faut autant éduquer à la vie sexuelle qu'à la vie affective.
Mais d'ailleurs, normalement, c'est censé s'appeler l'éducation à la vie sexuelle et affective. Sauf que bon, l'affectif...
Et c'est chouette de parler d'amour.
Oui. Du coup, on en parlait hors antenne tout à l'heure, et aussi pour faire le lien avec l'émission d'octobre où on parlait de violence conjugale, mais on avait parlé de le violentomètre, la petite échelle des violences conjugales qui du coup commence bien avant les coups, mais dès le contrôle de la personne avec qui on est, la jalousie, etc. Mmh. Et en fait, je pense que de parler de vie affective, ça permettrait justement de montrer que les violences conjugales, ça ne commence pas. En fait, qu'il y a plein de choses dans une relation de couple qui ne sont déjà pas normales et qui font partie
Des violences. Parce qu'il n'y a pas que les coups, il y a aussi. c'est horrible d'en parler, etc. Je suis désolée de plomber l'ambiance, mais on parle pas du tout des femmes qui se suicident parce que justement leur conjoint les pousse au suicide, en fait. Parce qu'ils font preuve d'une méchanceté et d'une violence psychique et psychologique à leur égard qui est extrêmement violente.
Ah bah les... Mince, j'ai mangé le mot. Comment on les appelle ? Les manipulateurs. Merci. Merci. Putain, j'avais mangé le mot. Ouais, c'est tout ça que tu décris. Hein.
Par exemple. C'est ça. Ouais. Et ça commence dès... Dès la petite remarque de Merck sur la tenue ou sur des fréquentations ou n'importe quoi. Hein. Et puis dès que la personne commence à vous dévaloriser, pitié, barrez-vous. Enfin, je sais que c'est...
Il y a des signes avant-coureurs, ouais.
Ouais.
Ça fait le lien avec ma future recommandation culturelle qui arrivera à la fin de l'émission.
Yes.
Teaser.
Justement, on arrive à la fin de notre discussion.
Ok.
Pour finir, pour conclure, ouais, on va... Parce que voilà, on a dit au cours des précédentes minutes... ce qui manque actuellement dans l'éducation sexuelle. Toutefois, on sait que ça peut être compliqué d'en parler, on sait que c'est encore vachement tabou, et que même si on porte des valeurs féministes sur tout ça, ça reste difficile d'en parler. J'aimerais qu'on termine cette discussion justement en évoquant quelques initiatives, justement des moyens, des supports, des médias, des outils.
Oh bah alors là, on a encore 20 minutes de plus.
Bah alors,
comment te dire ?
Peut-être qu'on peut juste en présenter 2-3.
Sélectionner, ouais.
Ouais.
Alors moi j'en ai 3, ça va être rapide. Le premier, c'est un compte Instagram qui s'appelle Sapho Sutra, qui est trop bien, pardon, j'ai piqué une référence de Roman qui me refait les gros yeux. C'est trop beau, c'est des illustrations et des textes qui présentent du coup des rapports lesbiens. Voilà, et c'est très très beau. Il y a une émission qui n'existe plus, c'est un podcast qui s'appelait L'Émifion, qui était animé par Navi et Sophie-Marie Laroui, qui était vraiment trop bien. En plus, pas du tout jugeant, enfin vraiment trop cool. Elle commençait par une partie un peu statistique. Enfin bon, bref, c'était vraiment trop bien.
Tu dis ça n'existe plus, mais en fait tout est disponible.
Ça se retrouve, mais ça n'existe plus dans le sens où il n'y a plus de nouvelles émissions depuis un moment. Ouais. Et la troisième reco, c'est Le vrai sexe de la vraie vie, qui est une bande dessinée, dis donc. Parle encore de BD. Ouais. Qui est à la base, ça a été pré-publié sur le site internet Mademoiselle, mais du coup, il y a deux tomes qui sont sortis après. Et c'est très cool parce que, en fait, elle illustre le vrai sexe de la vraie vie, quoi. Elle illustre des histoires de cul quotidienne.
Les réussites, les fails, le fait que des fois on se marre bien aussi pendant des rapports.
Exactement.
Parce que des fois tu tentes des trucs, ça marche pas, mais c'est pas grave, on en rigole.
Au mieux en rire, ouais.
Voilà, j'ai fait vite.
Moi, peut-être mes deux recommandations culturelles, enfin, mais c'est pas exactement des recommandations culturelles, mais voilà, c'est des outils qui permettent d'aborder le thème facilement et d'une manière un petit peu didactique, pédagogique. C'est, on l'a évoqué, le guide du zizi sexuel. Et justement une série de vidéos qui s'appelle Sexy Souci, produite par France TV Slash. Pareil, voilà, on a à chaque fois une capsule qui nous parle d'une pratique, qui nous parle d'une...
Je recommande vraiment chaudement Sexy Souci pour les avoir rencontrées en vrai et avoir... elles sont tip top. Et elles ont une manière d'aborder la sexualité qui est vraiment hyper cool. C'est hyper positif, c'est hyper... Moi, ça me rebooste à chaque fois. Et c'est des petites vidéos de 3 minutes. Et il y a quelques titres. Il y en a une qui s'appelle Doigt dans l'anus. Je trouve ça marrant.
Excellent.
Comment utiliser du lubrifiant, enfin, etc. Plan A3 et tout ce que vous voulez.
Moi, du coup, j'ai deux références, même si une... c'est une réalisatrice féministe qui fait du porno inclusif et féministe, qui s'appelle Erika Lust. Il y a également Ovidi, qui réalise des documentaires qui sont extrêmement intéressants sur la place de la femme au sein de la sexualité. Donc, elle a fait un reportage sur les TDS, elle a fait un reportage sur la place de la femme dans le porno, etc. Donc, Ovidi et Erika Lust pour des pornos alternatifs avec des gens de la vraie vie, qui ne font pas du 34, qui ne sont pas si connus.
Et Ovidi a aussi fait une bande dessinée avec Gigli, pardon, faut que je le dise, qui s'appelle Libérer des dictats sexuels.
Ouais, elle est trop bien. Elle est trop, trop bien.
Et une dernière fois, Ovidi, on en parlait dans l'émission précédente.
Grande dame.
Là, c'était un documentaire sur.
Les violences obstétricales.
C'est ça. Et qui s'appelait Tu enfanteras dans la douleur.
Ouais, c'est ça.
Ouais, elle est géniale.
Ils sont vraiment super bien, ces documentaires.
Et également un compte Instagram, parce que je veux absolument placer un compte Instagram qui s'appelle Orgasme et moi, qui parle de sexualité positive, qui parle de plein de sujets avec des témoignages qui sont cool et tout. Ouais. Et ça parle, par exemple, de Deux dans la nuit, ça parle de squirt, ça parle de cunnilingus, ça parle de fellation, ça parle de tout. C'est inclusif et c'est des témoignages, justement, de gens de la vraie vie. Et du coup, la nana Charline qui a créé le compte promeut une sexualité inclusive, bienveillante et merveilleuse, quand même.
Oui, c'était la recommandation culturelle d'Ophélie, je me rappelle, dans une précédente émission.
Oui, mais on le redit parce qu'il faut aller vous abonner, c'est trop bien.
Bah, pour enchaîner sur Instagram, c'est vraiment la nouvelle plateforme. C'est vraiment la nouvelle plateforme où il y a plein de comptes qui sortent. Du coup, il y a aussi le compte Jouissance Club, que vous devez sûrement connaître. Donc, c'est un compte Instagram qui propose des dessins qui montrent clairement en fait comment pénétrer quelqu'un avec ses doigts, toutes les zones possibles et imaginables pour donner et se donner un max de plaisir, faire de la sexualité un truc plaisant et pas un truc sombre et diabolique. Voilà, donc je recommande. Et puis j'ai le temps d'en donner deux autres,
bien sûr.
Les mecs cis, je vous recommande Martin Page et son essai qui s'appelle Au-delà de la pénétration. Pour celles et ceux qui aiment moins lire, vous pouvez aussi aller checker le podcast Pénétrer des couilles sur la table, où il est en interview, enfin c'est lui, pendant une heure. Moi je l'aime beaucoup et l'essai réfléchit à comment décentrer les rapports sexuels de la pénétration péno-vaginale. Et puis ça réfléchit au problème de masculinité, ça réfléchit au plaisir prostatique, enfin voilà, je vous le conseille. Et puis pour finir, un autre compte Instagram, je fais tout dans le désordre, désolé, qui s'appelle Aggressively Trans. Alors pour le coup, c'est pas qu'un compte qui parle d'éducation sexuelle, mais les posts, notamment qui s'appellent Parlons Porno, Rapport au corps, Comment parler de contraception, Enfin voilà, c'est une meuf trans qui fait plein de posts qui permettent de réfléchir à comment inclure les personnes trans à notre réflexion de manière globale, et y compris en termes d'éducation sexuelle.
Et voilà. C'est un super compte parce que ça permet réellement de se rendre compte des privilèges qu'on a en tant que personne cisgenre. Et que c'est de notre devoir de laisser la parole aux
concernés.
Aux concernés, c'est ça. Mmh.
C'est pour ça que je la cite, cette nana-là, parce que je suis absolument mal placée pour parler de tout ça. Donc je vous renvoie vers elle, puisque voilà.
Mais elle est géniale.
Ouais, elle est top.
Et je fais juste un petit... Enfin, vu que Instagram, c'est une nouvelle plateforme, ces personnes-là font ça bénévolement. Du coup, si jamais il y a des liens Ulule, des Tipeee, des cagnottes, etc., soutenez-les en leur donnant ne serait-ce qu'un ou deux euros, parce qu'au final, elles font le boulot d'un ministère. Parce que l'éducation nationale ne fait pas son boulot. Enfin, je suis désolée pour moi, mais elle ne fait pas son travail. Mm-hmm. Du coup, ces personnes-là prennent le relais et donnent de leur temps, de l'énergie. Enfin, c'est un boulot immense de gérer une page Instagram, vraiment, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, de répondre aux messages, etc. Il n'y a pas de formation pour gérer un compte Instagram. Donc du coup, filez-leur un petit peu d'argent, parce que mine de rien, elles vous permettent une sexualité épanouie, épanouissante et merveilleuse.
Et en plus, elles luttent pour ne pas se faire striker, parce que souvent, c'est le genre de compte qui saute très facilement.
Voilà. C'est ça. Il y a Sapho Sutra, il me semble, qui avait été striké une fois et qui a réussi à revenir.
Et puis, ça permet aussi, vous n'êtes pas seul, quoi, peu importe.
Oui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations, le travail que vous avez également fait bénévolement pour préparer cette émission et cette discussion. Et voilà, moi je finis sur une dernière petite parenthèse. Si vous doutez de la pertinence de vous servir d'Instagram pour parler de sexualité avec des jeunes, les jeunes sont déjà sur Instagram, les jeunes sont déjà sur les réseaux sociaux, ils sont déjà confrontés à tout ce qui est sur Internet. Voilà, le porno qui donne qu'une seule vision, que très peu de vision de la sexualité, on en a parlé, tout ça. Ce sont leurs armes, ce sont leurs outils, ce sont leur quotidien. C'est extrêmement pertinent de se servir des réseaux sociaux et justement d'Instagram, puisque c'est déjà des supports sur lesquels les jeunes sont. Et c'est justement, c'est d'autre part des supports sur lesquels il y a plein d'initiatives, des personnes volontaires, bénévoles et passionnées qui se démènent, vous l'avez dit, pour une meilleure médiation autour de ces sujets-là. Donc allez-y gaiement et ayez confiance en tout ça. On va clore cette discussion et puis enchaîner sur une pause musicale avant la dernière partie de notre émission. Cette fois-ci, on va écouter Pomme. Et je suis désolé, Anis, j'ai pas le titre de la chanson.
Ça va être la grosse ambiance, je vous préviens.
C'est comment la
anxiété.
Ben c'est parti.
Je suis la reine.
C'était Pomme avec sa chanson Anxiété. Vous êtes toujours à l'écoute de Ménage-toi Simone sur Radio Campus Tour, notre émission de novembre. Préenregistrée, au moment où vous écoutez cette émission, nous on est le 16 novembre. Je me suis écarté du micro pour regarder la date en bas à droite de mon écran. Et voilà, donc suite à la discussion et cette pause musicale, on va vous proposer d'autres formats. Et donc vous le savez, si vous êtes un habitué, une habituée de l'émission, c'est l'heure de la chronique. Et une nouvelle fois, c'est Anaïs qui s'y colle. À toi.
Yeah. Alors aujourd'hui, je fais un peu de recyclage. En fait, cette chronique, je l'avais faite pour une émission qu'on a enregistrée en avril, mais qui malheureusement n'a jamais été diffusée. Du coup, je me suis dit que ce serait con que les seules personnes qui aient entendu cette chronique, ce soit celles qui étaient avec moi le jour où on a enregistré. Donc, je refais cette chronique. Alors, donc normalement, la chronique Comment répondre à Tonton Relou a pour objectif de t'aider à faire face aux personnes de ton quotidien qui, au pire, sont misogynes, au mieux, se sentent assez peu concernées par le sujet de l'égalité femmes-hommes. Et donc, histoire de répondre avec calme et bienveillance, je sélectionne un sujet en particulier, les questions-remarques qui reviennent souvent, et je donne 2-3 arguments construits. Et alors, cette fois, je ne vais pas t'aider à répondre à Tonton Relou sur le fond, mais plutôt sur la forme, puisque lorsque l'on entend parler de féminisme, il arrive assez régulièrement de tomber sur des mots anglophones. Donc, Tonton Relou, à la base, il n'était pas super chaud sur le sujet, mais alors là, laisse tomber déjà que, comme pas mal d'entre nous, il se rappelle à peine de ses verbes irréguliers. Donc, si tu commences à se piquer anglais pour débattre du féminisme, il y a des chances que tu le perdes complètement. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est de t'expliquer les différents termes qui sont utilisés et, si possible, de donner des équivalents dans la langue de Molière. Alors, que peut-on entendre ? Alors, le premier terme que j'ai choisi de parler, c'est mansplaining. Alors, c'est une contraction qui, comme la plupart des termes qui vont suivre d'ailleurs, donc c'est une contraction des mots homme pour man, donc, et spreading pour déploiement. En gros, c'est les hommes qui prennent de la place, par exemple, dans les transports en commun. Alors, avant que j'en parle, t'avais peut-être pas percuté, mais maintenant, ça se trouve, t'es en train de te rappeler de l'autre fois dans le bus où ce mec assis à côté de toi avait les jambes super écartées, comme si ses testicules étaient en cristal ou pesaient 3,5 tonnes. Pourquoi c'est problématique ? Bah déjà parce que dans la tête de plein de gens, c'est une position normale, on n'y fait même plus attention, alors que les femmes à côté ont tendance à serrer les jambes et à se faire plus petites sans s'en rendre compte. Du coup, ça démontre encore une fois que femmes et hommes ne sont pas égaux quand il s'agit de l'occupation de l'espace public. Et donc, pour info, pour lutter contre ça, il y a un Coréen qui, en 2014, a collé des stickers dans le métro au niveau du sol pour déterminer en gros où mettre ses pieds pour voyager sans envahir l'espace vital de ton ou ta voisine. Et d'ailleurs, il y a la brigade antisexiste qui en a fait de même dans le métro parisien en juin 2017. Deuxième mot, slut-shaming. Contraction encore de slut pour salope et shaming pour shame, honte. Donc en gros, mettre la honte. Alors je vous propose une définition made in moi-même. En gros, c'est de dévaloriser une femme en se basant sur sa vie sexuelle, qu'on sache en quoi elle consiste ou non, qu'elle soit donc réelle ou supposée. Je dis réelle ou supposée parce qu'une femme qui a effectivement une vie sexuelle peut être victime de slut-shaming, mais aussi une meuf qui n'en a pas spécialement, mais qui a le malheur de porter une jupe, forcément une salope, qui a plusieurs potes masculins, encore une salope, ou qui parle de sexualité librement, reine des salopes. Du coup, je suis en train de me dire que vu la discussion qu'on a eu tout à l'heure, enfin bon bref. Donc l'idée, c'est bien de porter un jugement sans fondement, et quand bien même il y aurait un fondement, on s'en tape, les femmes devraient pouvoir faire ce qu'elles veulent sans avoir à supporter des commentaires mal placés. Et pourquoi c'est problématique ? Bah déjà parce que juger, c'est mal. Je pourrais m'arrêter là, mais le souci, c'est que le slut-shaming fait partie de ce qu'on appelle la culture du viol, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui fait que, par exemple, quand une femme porte plainte pour agression sexuelle, on va lui demander comment elle était habillée ou le nombre de partenaires qu'elle a. Et malheureusement, selon la réponse, ça n'ira pas dans le même sens pour la victime, alors que personnellement, je me demande bien pourquoi ces données auraient une quelconque importance quand il s'agit de traiter une affaire de viol. Autre mot, mansplaining, encore et toujours une contraction de man pour homme et de explain pour expliquer. Ça nous donne donc mansplaining, que l'on pourrait par exemple traduire en français par m'expliquer, mix entre mec et expliquer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, c'est quand les hommes t'expliquent la vie, ou en plus politiquement correct, une situation où un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, sur un ton généralement paternaliste et ou condescendant. Et donc là, normalement, les auditrices vont avoir plein de souvenirs humiliants qui vont leur revenir à la tronche. L'autrice américaine Rebecca Solnit est la première à avoir décrit de façon précise ce comportement. Dans un essai publié par le Los Angeles Times en 2008, elle raconte une situation de mansplaining qu'elle a vécue, sans pour autant utiliser ce terme, mais accrochez-vous bien, c'est assez drôle. Un homme me parlait d'un livre très important qu'il avait lu et m'expliquait son contenu comme si j'avais 7 ans. Il a fallu lui répéter 3 ou 4 fois que c'était moi qui l'avais écrit avant qu'il ne s'interroge et daigne m'écouter. Voilà, donc moi je trouve que c'est assez parlant comme témoignage. Et ce qui est marrant avec le mansplaining, c'est qu'il a un petit copain qui l'accompagne souvent, le man-interrupting, pour man, homme, et interrupting, interrompre, ou la fâcheuse tendance qu'ont certains hommes à couper la parole des femmes au cours des discussions ou des débats. Nous ne sommes pas tous égaux face à la prise de parole, à croire qu'une femme qui parle beaucoup est bavarde, alors qu'un homme qui parle beaucoup est un leader, et ça m'énerve. On a ensuite male tears, littéralement les larmes des hommes. Souvent utilisé sur Twitter, ce réseau social qui peut vite se transformer en fausse apura, mais des fois, il se passe quand même des trucs chouettes. Et on peut même bien se marrer si on suit les bonnes personnes. Et donc, les male tears, c'est une terminologie inventée par les féministes anglo-saxonnes pour qualifier ces plaintes et récriminations formulées par des hommes que leur position est difficile aussi et que tout n'est pas rose pour eux non plus. Alors, dans le fond, je suis un peu d'accord, sauf que le patriarcat arrange quand même une partie de l'humanité, spoiler, les hommes, et que parfois, c'est un peu d'entendre un mec te dire « mais moi aussi je souffre » quand tu lis « cause de féminisme », ça donne un peu l'impression quand même qu'il tire toute la couverture à lui. J'en profite pour faire une petite dédicace à Rémi, ancien volontaire du Bige, qui est un grand expert des ouin-ouin, on peut plus rien dire. Pour terminer, je vous propose deux termes un peu plus positifs. Le premier, c'est « empowerment ». Donc ça, en ce moment, vous le voyez écrit partout sur des t-shirts, des mugs, des sweats. Moi, la première, j'ai un sweat avec écrit « empowerment » dessus. Alors, c'est hyper à la mode. Il n'y a pas vraiment de traduction littérale en français, mais on pourrait utiliser le mot « empouvoirment ». Sa construction est la même qu'en anglais. « Pouvoir » en radical au sens de puissance et de capacité, et en préfixe, l'idée d'un processus, d'un mouvement, d'une transition en cours. Donc, « empouvoirment », processus de développement d'un pouvoir, en quelque sorte. La base, c'est de connaître sa valeur, et l'idée, c'est d'arriver à une réelle prise de pouvoir sur sa propre vie. L'éducation genrée conditionne les meufs à être discrètes, douces, à ne pas faire de vagues, à s'épanouir dans la sphère privée, et pas à monter sa boîte, se lancer en politique, partir découvrir le monde seul, etc. etc. L'idée, c'est de renverser tout ça, parce que on peut. Voilà, les meufs peuvent aussi faire des trucs cool. Et enfin, le mot sisterhood, qui veut dire sororité, qu'on a déjà dit en début d'émission, je crois que c'est Roman. Donc c'est fraternité pour les frères, sororité pour les sœurs, solidarité pour les deux. C'est pas de moi, mais j'aimais bien cette phrase-là. Plus ça va, plus je me dis que la sororité, c'est peut-être le plus important dans la mobilisation. Je crois qu'on élève les meufs dans la concurrence permanente avec le reste de la gente féminine, à toujours se comparer et à vouloir descendre les autres. Et même une fois qu'on a eu un déclic féministe, on peut se mettre à critiquer les mauvaises féministes qui se trompent de combat, qui ne disent pas ce qu'il faut comme il faut ou qui desservent la cause. Au final, je crois que tous les avis sont importants et font avancer le débat et qu'on a surtout besoin de serrer les coudes pour ne pas s'éparpiller. Mais ce n'est que mon avis. Voilà pour ce petit « Comment répondre à tonton relou ». À bientôt pour un prochain épisode.
Merci beaucoup Anaïs.
De rien.
Je suis ravi de réentendre cette chronique. C'est vrai que elle s'était perdue dans les limbes de l'informatique.
Yes.
Et en effet, le podcast d'avril ne sortira jamais. On est un peu triste. On fait doucement notre deuil.
On fait notre deuil, voilà, c'est ça.
C'est ça. Mais voilà, au moins on vous a ressorti, on vous resserre la chronique d'Anaïs, le tonton relou justement qui parlait anglais cette fois-ci.
Yes. Je me permets de faire un petit ajout.
Bien sûr.
Tu voulais
vas-y,
on s'est regardé, je sais. Je ramène ma science, je suis navrée. Je crois que... Il me semble que le mot, plutôt que solidarité, c'est adelphité.
Ouais. La sororité, c'est le lien entre sœurs. La fraternité, c'est le lien entre frères. Et l'adelphité, c'est le lien entre frères et sœurs.
Adelphité.
Adelphité.
Je ne sais pas si on dit adelphité. L'Adelphi, tout simplement.
P-H... I-T-E.
Je crois qu'on dit Adelphi, I-T.
Étymologiquement, Adelphi, c'est ceux qui viennent de la même mère, en fait.
Oh ah ouais.
Bon. Oui.
Ceci explique cela.
En tout cas, ça revient beaucoup. Enfin, ça revient pas mal. Je sais dans le jargon militant.
Très bien.
Bon, pour dire que y a aussi inclusion des hommes qui veulent devenir des alliés, etc. Pour dire qu'on est des Adelphes face au patriarcat.
Merci pour cette précision.
C'est Tu m'avais fait un signe de Romane, c'est ça que tu voulais ajouter?
Oui, c'est ça que je voulais ajouter.
Super. D'accord, donc on enchaîne alors. La rubrique suivante, donc c'est le tout n'est pas perdu. C'est nos bonnes nouvelles, le truc. Bon, cette fois-ci la chronique, et merci Anaïs, n'était pas trop plombante.
Parfois ça change.
Ouais, assez drôle, et elle nous a plutôt mis le sourire aux lèvres. Mais on enchaîne avec toujours plus, puisqu'on en a besoin, de bonnes nouvelles, de réjouissances, tout ça. Donc une fois encore, on a chacune rassemblé... Une petite pastille de bonne humeur à vous partager dans cette rubrique Tout n'est pas perdu. Qui souhaite commencer?
Je peux commencer. Alors, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est le... Ça va être pourri l'accent anglais. J'ai une licence d'anglais en plus, la honte.
Il fallait pas le dire.
Je peux forcer le trait, si vous voulez.
Vas-y, force le trait.
Non, c'est le Trans Awareness Month. Alors, ce qui veut dire...
Ça va.
J'ai bien fait, j'avoue. Ouais. ce qui veut dire concrètement le mois de la visibilité trans, en gros, aux États-Unis. Et donc, ma bonne nouvelle, c'est que pour marquer le début de ce mois, la mairie de San Francisco, qui est quand même connue pour être une ville assez progressiste, a illuminé aux couleurs du drapeau trans son bâtiment principal. Ce que je trouve plutôt cool, parce que c'est quand même rare que le drapeau ou que, de manière générale, la cause trans soit visible dans l'espace public, surtout de la part des instances politiques. Voilà, c'était cool. Ma bonne nouvelle.
Merci cool. Eva.
Moi, ma bonne nouvelle, c'est qu'en Australie, maintenant, les joueuses de football, elles gagnent autant que les joueurs...
Je suis surprise que tu parles le foot, Romane.
En vrai, j'adore le sport.
C'était ironique. J'aurais dû faire un petit panneau ironique. Parce que tu avais parlé de la Coupe du Monde de foot.
Oui, et moi, j'adore le sport. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui permet de rassembler les gens. Et je suis persuadée que si on maintenait, si on faisait des initiatives comme ça et que les joueuses étaient au même niveau salarial que les joueurs, ça aurait un impact hyper positif sur l'égalité et sur la visibilité des meufs. Et ça aurait également un impact, je suis sûre, sur les petites filles qui se diraient « Putain, je peux devenir footballeuse. Je peux faire des trucs trop cool. » Grave.
Trop bien.
Et du coup, pour parler également encore de foot, je suis désolée, encore un peu sur le football. Du coup, autant en Australie, les joueuses ont obtenu l'égalité salariale, autant en Espagne, les joueuses sont en grève pour obtenir justement l'égalité salariale. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit.
Il serait temps.
Voilà. Et on parlait justement d'égalité salariale au début. Tout est lié.
Ouais, grave. du coup, mon tout n'est pas perdu est par rapport à l'égalité salariale, j'enchaîne. Mais avant, je fais le lien avec mon tout n'est pas perdu de la dernière fois, qui était sur la pub Nana, parce que je vous avais dit qu'il y avait eu 1000 saisines du CSA, et le CSA a rendu son verdict. Et il n'y aura pas de censure, puisque le conseil a examiné le message publicitaire et n'a pas constaté de manquement à ses dispositions. Les images en cause, si elles ont pu surprendre, sont directement en lien avec les produits promus et ne peuvent être considérées comme véhiculant une image dégradante de la femme. Merci. Bonsoir.
Avoir une vulve, ce n'est pas être sale. Voilà. Merci.
Pour rappel, c'était environ 1000 signalements que le CSA a reçus concernant cette publicité.
Beaucoup plus que, pour rappel, je le redis, Éric Zemmour en plein délire islamophobe sur LCI. Moi, ça me rend...
Oui, ou même Finkielkraut, là.
Voilà, par exemple.
Hein, là, son petit appel au viol.
Ça commence à bien grimper.
Cette dérapage est très, très récent.
Il y a trois élus de la France Insoumise qui ont porté plainte parce que, du coup, c'est un appel au viol. Et je rappelle que c'est puni de 47 000 euros d'amende.
Eh bien, on espère qu'il va...
Et de 2 ans de prison.
Voilà. Et du coup, donc mon vrai tout n'est pas perdu, c'est une ancienne salariée de Generali qui a gagné son procès au prud'homme de Nantes. Elle touchait 400 euros de moins qu'un collègue masculin au même poste et elle a donc elle va avoir 161 000 euros de dommages et intérêts. Donc après 41 ans de bons et loyaux services auprès de son employeur, cette jeune retraitée est parvenue à démontrer face à la justice qu'elle était bien moins payée qu'un homme qui occupait donc le même poste dans l'entreprise. Alors Generali Vie, c'est une des plus grosses boîtes d'assurance de France, qui a signé un accord sur l'égalité professionnelle. Donc elle doit lui verser 151 000 euros de dommages et intérêts. Plus les prud'hommes demandent 5 000 euros de préjudice moral et 5 000 euros pour la violation des accords relatifs à l'égalité professionnelle. Donc comme quoi, ça sert un petit peu. L'entreprise a immédiatement fait appel et a mis en avant auprès de West France sa politique interne en faveur de l'égalité homme-femme. Le journal rapporte néanmoins que l'entreprise a choisi au cours de la procédure de ne plus coopérer avec la justice en ne transmettant pas les éléments de comparaison demandés et ce malgré les demandes répétées du tribunal. Voilà. Donc c'est quand même cool parce que ça avance.
Parce qu'elle a gagné son procès.
Ouais.
Donc c'est chouette.
Mais d'un côté, il freine un peu les gars de fer, quoi.
Ouais.
Super.
Pas grave.
Merci, ça fait plaisir tout ça. Donc on enchaîne sur la troisième pause musicale où on est encore un quart d'heure ensemble pour cette émission de novembre de Ménage-toi Simone. Donc troisième pause musicale, cette fois-ci on va écouter Izut et après on se retrouve pour les recommandations culturelles toujours sur Radio Campus Tour 99.5. Izut et son titre c'est Noir.
Serrer les dents, toute ma life. Compter ce qu'il me reste en poche, toute ma life. Le regard des gens, toute ma life. Briser mon cœur, ouais, ouais. Toute ma life, ouais, ouais. Manquer d'amour, ouais, ouais. Toute ma life. M'éloigner de mes proches, ça c'est toute ma life. Vivre sans repère, ça c'est toute ma life. Yo, yo, yo. Tout est noir dans ma vie, car tout est noir. Tout est sombre, tout est noir. Dans ma vie, car tout est noir. Tout est noir, tout est noir. Dans ma vie, car tout est noir. Tout est sombre, tout est noir. Dans ma vie, car tout est noir. Dans le stress sans arrêt, crier ce que je veux sans cesse, cesse. Courir après les thunes non-stop, cesse. Demander du respect, autrui, ça c'est. Yo, yo, porter mes couilles, ouais, ouais. Toute ma life, ouais, ouais. Casser les potes, ouais, ouais. Toute ma life, ouais, ouais. Tracer ma route, ouais, ouais. Toute ma life, ouais, ouais. Noir et fier de l'être, ça c'est toute ma life. Yo, yo, yo. Tout est noir dans ma vie, car tout est noir. Tout est sombre, tout est noir dans ma vie, car tout est noir.
Noir sur Radio Campus Tour. Et c'était la troisième et dernière pause musicale de cette émission de novembre pour Ménage-toi Simone sur Radio Campus Tour 99.5. On est toujours avec Roman, avec Anaïs, avec Eva et moi c'est Merlin. Et donc sur le dernier, voilà, on est encore une dizaine de minutes ensemble. On va vous partager des recommandations culturelles, puis le petit agenda de ce qui se passe. On a notamment l'action qui se déroule au moment de cette diffusion sur le 99.5 FM qu'on vous invite vivement à rejoindre. On vous en parle juste après les recommandations culturelles. Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous souhaitez nous partager en cette fin d'émission?
Qui commence?
Qui y va?
Tu commences?
Vas-y Roman.
Alors moi j'aimerais vous parler d'un, alors c'est un livre BD, c'est de Léa Bordier, qui s'appelle Cœur à corps, corps à cœur, et qui traite des complexes En fait, c'est des femmes qui envoient une photo de leur complexe. Donc ça peut être... Elles considèrent qu'il n'y a pas de petits complexes ou de gros complexes. Enfin, genre, si t'es complexé par tes genoux, et bah t'envoies une photo de tes genoux. Elle va les redessiner. Toi, tu envoies une lettre avec ça. Et une fois que t'as reçu le dessin, tu redonnes ton avis sur ton complexe. Et en fait, c'est une série qui est extrêmement belle. Déjà parce que Léa Bordier, c'est une...
C'est Léa Castor qu'elle s'appelle, c'est
putain,
pas Léa Bordier.
Exactement,
Léa Castor. Parce que je parle de Léa Bordier juste après, donc c'est pour ça.
Léa Castor, pardon. Ça me perd, désolée. Léa Castor. Et c'est une super belle... c'est un super beau livre qui est magnifiquement bien dessiné. Enfin, en fait, elle fait des dessins qui sont extrêmement doux, très colorés, mais beaucoup dans la bienveillance, en fait. Et ça fait beaucoup de bien de voir des complexes et on sait à quel point un complexe, ça peut pourrir la vie, etc. Et ça fait aussi beaucoup de bien de voir les personnes, après avoir reçu le dessin, se regarder avec bienveillance en fait, parce qu'elles ont compris que, enfin parce qu'elles ont vu que leur complexe avait été vu de manière bienveillante par une dessinatrice qui a passé du temps dessus et qui les a magnifiés en fait. Voilà. Donc c'est Léa Castor, c'est pas Léa Bordier, je suis désolée. Mais les deux sont super chouettes.
Ouais, mais c'est marrant que t'en parles parce que ça fait partie des livres que je vais acheter bientôt. Parce
que
c'est bientôt Noël.
J'aime beaucoup Léa Castor.
Il est à la boîte à livres.
Ah. Ok, excellente info.
Merci Roman. Qui souhaite enchaîner ?
Bah du coup je vais enchaîner parce que je suis aussi dans la bande dessinée comme toujours. Donc moi je vais parler d'une bande dessinée de Léa Bordier qui s'appelle Cher Corps. Alors en fait à la base Léa Bordier elle a fait une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle du coup Cher Corps, où elle invite des meufs à parler de leur rapport à leur corps, et du coup là elle a sorti une BD. En fait c'est le même principe, c'est des nanas qui racontent leur rapport à leur corps, et c'est illustré par plein d'illustratrices différentes. Donc on a Marie Boiseau par exemple, on a Carole Morel, Lucille Gomez, Si, etc. Donc c'est vraiment trop cool, il y a plein de meufs différentes représentées. Il y a des meufs qui ont un handicap, il y a des meufs qui ont été violées et qui parlent de leur réappropriation de leur corps. Il y a des nanas qui ont par exemple eu des brûlures. Enfin bref, il y a plein d'histoires différentes. C'est hyper beau, c'est hyper touchant. Voilà, je pense que j'ai bien résumé la bande dessinée. Et la deuxième BD dont je voulais parler, c'est Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, que j'ai lu aussi le mois dernier. Là, pour le coup, c'est une claque assez vénère. Ça parle, du coup, on parlait tout à l'heure de pervers narcissique. Donc, en fait, Sophie Lambda, c'est une autrice de bande dessinée qui a vécu ça. Et du coup, sa thérapie, ça a été d'en faire une bande dessinée. Donc, elle raconte, en fait, toute l'histoire. Et du coup, c'est assez violent, quoi. Parce que ça commence très bien. Ça commence, c'est une histoire d'amour magnifique. Et en fait, ce qui est cool, c'est que donc elle raconte toute son histoire perso, mais il y a quand même un bon tiers du bouquin à la fin où en fait elle parle de tous les concepts. Parce que du coup, elle a complètement décortiqué ce qui lui est arrivé, toutes les tactiques de manipulation dont son ex a utilisé. Et du coup, en fait, il y a plein de psy qui ont bossé sur ce sujet-là. Et voilà, c'est super intéressant. Moi, ce qui m'a un peu flingué moralement, c'est que clairement, en fait, les gens qui sont comme ça, c'est des causes perdues. Enfin, je veux dire, on peut rien faire pour les aider, quoi. Ils seront comme ça toute leur vie. Voilà, donc bref, tout ça pour dire, faites attention à vous. Et du coup, ça m'a vraiment refait penser au violentomètre qui, d'ailleurs, est à la fin du livre sur cette fameuse échelle des violences conjugales qui, du coup, ne commence pas au coup de poing et aux gifles, qui commence dès les pétages de câbles pour rien, dès les crises de jalousie et dès tout ça, quoi. Voilà, mais c'est une très bonne bande dessinée, et je pense que notamment pour les gens, parce que du coup elle parle du fait que il l'a éloignée de ses amis en fait, et que même ses amis, des amis très proches, en fait au bout d'un moment ils savaient tellement plus quoi faire qu'ils ont lâché l'affaire, quoi. Et en fait tu peux même pas leur en vouloir, parce qu'au bout d'un moment l'autre est tellement manipulateur qu'il fait tout pour que les personnes qui peuvent potentiellement sauver, être là pour intervenir, sont éloignées d'office, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne bande dessinée.
Ouais.
À lire. Voilà.
Peut-être un petit trigger warning quand même, parce que
ah oui,
ça peut.
Oui, oui, c'est assez. Voilà.
Oui, oui. Moi, on vous recommande très chaleureusement cette BD. Et d'ailleurs, si vous hésitez encore à de la qualité de cette BD, moi, je vous invite à écouter la chronique littéraire de Juliette Arnaud, qui l'a chroniquée dans Par Jupiter sur France Inter.
Ouais.
Et voilà, Juliette Arnaud, moi, je suis un très petit lecteur, je lis quasiment pas. Mais toutefois, j'aime beaucoup le travail de Juliette Arnaud en tant que chroniqueuse littéraire. Et voilà, elle dresse une chronique absolument superbe où elle parle de cette BD, justement. Et ouais, ça pose bien les bases. Et oui, on vous recommande vraiment de courir acheter cette BD. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vous recommande culturellement, ici, c'est pas pour rien.
Il faut le lire ou l'écouter ou le voir.
Exactement. Merci Anaïs.
De rien.
Moi, je pars sur du radiophonique. Yes. J'aime beaucoup les podcasts. Donc moi, je serais peut-être Madame Chronique podcast. Je vous recommande, il y a une série de 4 podcasts. Pardon, de 4 podcasts sur France Culture qui vient de sortir, qui s'appelle Sortir les lesbiennes du placard. Voilà, c'est en 4 épisodes et ça parle de plein de trucs. Il y a un épisode sur les représentations au cinéma. Il y a un épisode où on parle de Monique Wittig. J'adore ce qu'elle fait, si vous ne connaissez pas. Du féminisme hétéro, des persécutions nazies et plein d'autres trucs. De comment trouver un espace à soi aussi aujourd'hui, que je trouve intéressant. Donc voilà, c'est une série originale de Clémence Alezard. Peut-être que j'ai massacré son nom de famille, j'en suis désolée.
Elle t'en voudra pas, t'inquiète. Non.
Et puis sinon, j'ai repensé à un film que j'ai vu passer, que j'ai trouvé absolument superbe, et qui s'appelle In Between en anglais, ou Barbare. Alors, je le prononce sûrement très très mal puisque c'est la traduction arabe, palestinienne plus précisément. C'est un film de Meysa Lounahmoud et il est très très beau. Ça raconte grosso modo l'histoire de trois femmes palestiniennes qui se retrouvent à Tel Aviv, donc la capitale israélienne, et qui se retrouvent en colocation et elles ont un peu rien à voir les unes avec les autres. Et voilà, c'est une histoire de sororité pour le coup. Et enfin, je vous en dis pas plus, mais je vous le conseille vraiment très 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 chaleureusement.
Ok, merci Eva. Bon, moi j'ai pas spécialement de recommandations culturelles. Voilà, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé. J'avais un tout petit truc à vous présenter. C'est sur arteradio.com. Voilà, les podcasts Arte Radio. Je vous en parle à chaque fois. Là, c'est en lien avec la discussion qu'on a eue. Ça s'appelle Les Chemins de Désir. C'est en 6 épisodes. C'est un petit feuilleton. Ça s'écoute très bien. Et voilà, je m'étends pas plus là-dessus parce que je vous ai déjà parlé plein de fois des podcasts arteradio.com. Et puis, voilà, je vais essayer aussi de garder un petit peu de temps pour la dernière partie. Voilà, Les Chemins de Désir. Et bien sûr, vous retrouverez toutes ces recommandations culturelles sur la page du podcast de notre émission, sur le site de Radio Campus Tour. Et voilà, j'essaye quand j'y pense de mettre aussi un peu d'autres références qu'on aborde par exemple dans les discussions, etc. Voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir les références de ce dont on parle dans notre émission, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, évidemment. On se quitte avec l'agenda. Quand est-ce qu'on se retrouve? Qu'est-ce qui se passe à Tours et dans les environs? Donc, en priorité... vu aussi le temps qui nous reste, on va parler du coup de la manif contre les violences faites aux femmes samedi 23 novembre, donc au moment où vous écoutez cette émission en direct. Ça se passe à 14h, c'est organisé par Nous Toutes. C'est sur la place Jean Jaurès.
Oui, le rendez-vous, il est à 14h place Jean Jaurès.
Oui, c'est okay. Ça. Il y a également des départs pour Paris qui sont mis en place par le réseau féministe 37, si jamais vous voulez aller à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà.
Moi, j'y serai à Paris. Je sais pas ce qu'on peut en faire pour la prochaine émission, mais...
C'est une info. Moi, je serai à Tours. Okay. Moi, je serai à Tours aussi.
Donc voilà, bon, pour dire que voilà, c'est une manifestation, c'est un mouvement national. Ça se passe partout en France et donc il y a des convois. Absolument. Pour aller à Paris, donc où il y aura bien sûr la plus grosse mobilisation. Toutefois, pour celles et ceux qui se déplacent pas à Paris, il y a un rassemblement à Tours et voilà, donc une manifestation nationale pour dénoncer les violences faites aux femmes. Puisque voilà, on en est, on le rappelle pas à chaque fois, mais on en est à plus de 130 féminicides depuis le début de l'année.
136.
Voilà, et donc voilà, c'est au moment même où vous nous écoutez sur Radio Campus Tours. Et si vous nous écoutez en podcast, bien sûr, intéressez-vous à ce que fait le collectif Nous Toutes à Tours, dans la France entière. Elles font un travail salvateur. Voilà, dans la même veine, on a lundi 25 au soir au CGR une projection d'un film qui s'appelle Female Pleasure.
C'est un documentaire qui est consacré au plaisir féminin et au rapport à l'orgasme. À travers la vision de 6 femmes qui sont de toutes les régions du monde, enfin qui sont de plusieurs régions du monde.
Voilà.
Voilà, donc c'est un documentaire qui a eu beaucoup de succès, qui n'a pas été beaucoup diffusé en salle. Là, on va pouvoir le voir grâce à Oser le Féminisme 37, qui du coup va le diffuser donc au CGR Centre. Voilà. Allez le voir, c'est un super documentaire qui a gagné, il me semble, pas mal de prix.
Oui, un documentaire qui est paru au cours de l'année ou bien l'année dernière, il me semble.
C'est sorti en mars 2019, voilà. En début d'année.
Et on avait eu la chance d'avoir une avant-première au studio, mais naturellement c'était blindé. Et puis voilà, une avant-première, ça fait pas le film.
Comme souvent les avant-premières.
Voilà, ça fait pas que le film sorte en salle, ça fait pas qu'il soit plusieurs semaines à l'affiche et qu'on puisse y aller tranquillement. Là, pour le coup, ça se passe au CGR. On aura, je pense, une grande salle pour voir ça. Donc,
centre ou de Lyon.
Centre. Ouais. C'est le 25 novembre à 20h. Lundi 25 novembre à 20h. Courez-y. Et quant à ce qui nous concerne, nous, on a aussi notre réunion mensuelle.
Alors, elle n'est pas calée encore, mais du coup, mi-décembre, a priori, il y aura une réunion du réseau. Donc, il ne faut pas hésiter à nous suivre sur Facebook. On annoncera la date. Et moi, j'ai un autre truc à dire. Ce n'est pas vraiment de l'agenda, mais bon, quand même. Si vous voulez soutenir le compte Instagram Ta Pensée A, Romane en parlait tout à l'heure, Ta Pensée A, qui est un compte Instagram qui me fait la lumière sur la charge mentale. Je ne me perpille pas parce qu'on n'a pas le temps, mais donc, allez voir. Et donc, Ta Pensée A a lancé un financement participatif sur Ulule que vous pouvez soutenir jusqu'à demain. Donc ouais, dimanche 24 novembre.
Ouais.
Donc si vous voulez participer, c'est genre right now. Et vous pouvez acheter, vous pouvez participer et du coup recevoir en contrepartie des affiches, des badges, des sacs et tout plein de trucs.
C'est ça.
Voilà.
Génial. Et son livre va sortir en décembre. Du coup, pensez à acheter le livre parce que c'est trop bien. Son compte est vraiment d'utilité publique et elle est libératrice.
Grave.
Super, merci beaucoup. C'est parfait, il me reste tout pile 30 secondes pour conclure. Le temps de vous remercier, vous. Merci Eva, merci Anaïs, merci Romane.
Merci Merlin.
D'avoir participé
merci
à cette merci émission, préparé cette émission. Merci à nos auditeurs, nos auditrices. Merci à Radio Campus, tout ça, à la famille. Merci les réseaux, merci le biche, tout ça. Voilà, on est très contents de faire ça et de vous retrouver chaque mois pour faire cette émission. Donc on se dit en décembre sur les ondes ou bien très bientôt au sein de notre collectif le réseau de Simone. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, nous faire des retours, nous faire des recommandations ou nous poser n'importe quelle question. On est là pour vous et on est ensemble. Merci et à bientôt.
Ah, les bonnes femmes.
Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Ils sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques? La mienne est morte.